Maura Guerrera, vous venez de Sicile, vous chantez avec Malik sur scène, qui joue de divers instruments. Vous trouvez votre inspiration comment quand vous jouez tous les deux ?
Je propose des mélodies et ensemble, quelque part, il va entendre les modes du chant sicilien que je propose et après, ensemble, on va trouver la structure, faire évoluer donc la mélodie et les modes. Mais c'est ça qui est très beau, c'est que souvent, je propose des chants très anciens de Sicile et Malik, il retrouve des mélodies kabyles, par exemple, comme dans le cas de Yarofulu, il y a un chant que j'ai proposé et lui, il m'a dit ça ressemble beaucoup à une mélodie kabyle que je connais et donc on a presque associé les deux choses et ensemble ça fonctionne.
La Sicile est juste en face de l'Afrique, de la Tunisie, ça n'est pas loin. Le berceau méditerranéen transpire également quand il y a des influences un petit peu andalouses quand vous chantez, quand vous jouez.
Eh bien, en Sicile, la période arabo-normande, c'était une période très floride. En Sicile, il y avait une école poétique, l'école poétique sicilienne, pendant la période de Federico II, donc à Palerme. Et il y avait le géographe Al-Idrisi qui habitait la cour de Palerme pendant la période de Roger II, donc Ruggero II, toujours roi à Palerme. Et du coup, des fois, on aime imaginer que peut-être il n'y a rien d'écrit qui est resté, mais dans la mémoire orale, il y a peut-être des traces de tout ça, surtout dans les chants paysans qui se sont tramandés. Souvent, en tout cas, dans les chants traditionnels, il y a une perméabilité entre les chants savants et les chants populaires. Il y a toujours eu dans les deux sens. Donc, soit les chants savants sont inspirés par des mélodies ou des rythmes populaires, soit les mélodies, les danses, les bals du milieu savant sont arrivés après parmi les barbiers qui allaient jouer des airs aussi un peu que de la musique savante. Donc moi, des fois, quand je lis les phrases poétiques que ces bergers et ces paysannes chantent en sicilienne, je me demande s'il n'y a pas de traces de l'école poétique, parce que c'est vraiment de l'amour courtois dans certains cas.
Justement, vous parlez beaucoup d'amour, des gens qui attendent, il y a beaucoup de sérénades, les gens connaissent moins les aubades. En Sicile, est-ce qu'il y a beaucoup d'aubades ?
Non, nous, on connaît les sérénades plutôt, plus les soirs que l'amour est inspiré pour aller chanter à la fenêtre de l'aimé. Après, le chant, il était parti de la vie. On chantait beaucoup aussi pendant le travail, soit pour rythmer le travail ou bien pour passer le temps. Et il y avait plusieurs voix qui chantaient. Il y avait souvent un soliste, les autres qui chantaient à cordes. Donc, quand on travaillait dans le chant, il y avait toujours quelqu'un qui était considéré comme le meilleur soliste, un ou deux, et ils pouvaient s'alterner. Et aussi, pendant la tonte des moutons, il pouvait y avoir des poètes qui chantaient pour faire passer le temps, inventer des poèmes. Ça existe. J'ai eu la chance de le voir encore.
Et les paysans en Sicile, comment ont-ils appris la musique ?
Par imprégnation, c'est à l'oreille, c'est comme parler, comme marcher, on apprend ça en le faisant. Et souvent, quand je parle aussi de... même pour la danse ou même pour les chants, j'ai eu les mêmes expériences. Il y a une amie à moi qui m'a dit, j'ai commencé à faire du collectage, mais en fait, les gens que j'allais voir me disaient, mais pourquoi tu ne demandes pas à ta mamie de te chanter ? Elle est une des meilleures chanteuses de la région. Et lui, il disait, mais moi, ma mamie, quand elle chantait, pour moi, c'est comme si elle me parlait. J'arrivais pas à voir ça comme un chant. Donc, c'est de l'ordre de l'intime, du langage. Et aussi pour la danse. Des fois, on demandait de nous danser les ballettes ou que c'est une danse pastorale de la province de Messina, de Peloritani. Et quand on disait, vous connaissez des danses ? Et eux, ils disaient la tarantella, que c'est la version folk du balletto, quand même la version pour la ville, pas la version intime. C'est pas là qu'ils faisaient en famille, comme ça. Ça ne pouvait pas être considéré une danse. Il disait la valse, la polka, le scottish, ça c'était des danses. Mais cette chose était de l'ordre de la communication, c'était un langage.
Est-ce que dans vos villages en Sicile, la musique relie encore les gens ?
Moi, je suis de la ville et j'ai eu la chance de découvrir ça parce que je suis vraiment allée chercher. J'ai rencontré un berger et lui, il m'a amenée dans ces lieux alors que j'avais vécu une vie de citoyenne en ville. Je n'avais pas connu ça. Et c'est en train de se perdre. Il y a des familles des familles, des porteurs de la tradition qui se connaissent entre eux. Et là, il y a encore une tradition qui continue. Ça veut dire qu'il y a les enfants qui vont apprendre de leur papy à jouer l'accordéon. Ils vont se voir dans certaines fêtes sacrées, dans certaines processions. Mais c'est des endroits un peu secrets. Pas tout le monde les connaît. Il faut connaître la famille. Une fois qu'on connaît un musicien d'une famille, tout le monde va s'ouvrir. En tout cas, récemment, depuis 10 ans, il y a des personnes qui vont aller un peu voir. Alors que quand j'ai commencé bien avant, j'étais la seule et tout le monde me connaissait bien parce qu'il n'y avait que moi, citoyenne, qui faisait ça. Voilà.
Malik, comment vous accordez-vous avec le chant de Mahora ?
En fait, ça me paraît tellement naturel. Il y a pas besoin de s'accorder ni de réfléchir, ça se fait, c'est un fil conducteur assez naturel. Ce qu'elle chante me parle, je l'entends chez moi. Pas l'impression que c'est quelque chose qui m'est étranger, c'est du pays, c'est les racines.
Et sur quel instrument jouez-vous ?
Alors je joue du mandol, qui est un instrument typiquement algérois, qui a été fait par un luthier italien sous la demande d'un grand maître chaabi qui s'appelle Al-Hajj Mohamed Lanqa. Avant, on jouait de la kouitra, c'est un instrument similaire au oud, et il voulait un instrument qui se rapproche un peu de la mandoline, mais en gardant toujours ce grave du oud. Et donc, ce luthier lui a conçu cet instrument qui a été adopté dans l'algérois et dans la musique populaire chaabi.
Je voulais vous parler parce que ça sentait dès beaucoup qu'il y avait de la mandoline et du oud. Les harmoniques que vous arrivez à faire avec vos instruments, ça sort comment ? Vous avez l'habitude de jouer avec ce type d'instrument ? Vous jouez avec des guitares, comment vous faites ?
Avant tout, je suis un amoureux des cordes. Je touche à la guitare, je joue du guembri aussi, l'instrument qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un instrument exceptionnel parce qu'il a une histoire aussi. Pour moi, c'est l'ancêtre de tous les instruments. On dirait qu'il est vieux comme le monde. C'est juste une pièce de bois où on a posé une peau de bête avec des boyaux. C'est tout naturel. Et ça, c'est aussi un instrument un peu chamanique. Son rôle, c'est de transmettre et surtout de guérir. Donc il a un côté thérapeutique très puissant. Enfin, toute la musique a un côté thérapeutique. On entend les tarentelles, ou les pizzicas, ou toute cette culture italienne. C'est un peu la même chose qu'on joue chez les Gnawa. C'est des rythmes endiablés qui partent en transe. Et moi, de la première fois que j'ai vu des musiciens jouer de la pizzica, pour moi, c'était énorme. Je voyais carrément les Gnawa en train de faire leur carcabou et partir sur des rythmes de cette vitesse. Et ça, c'est génial.
Vous avez un disque en préparation qui sort au mois de mai ?
Oui, là, on va terminer avec les mixages, les masterings. Donc, le 24 mai, à la Cité de la Musique, il va y avoir un concert de présentation de l'album Spartenza. Donc, que ça veut dire séparation, départ, avec un hommage à toutes sortes de départs, de rencontres entre différents rivages de la Méditerranée.